21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radion. Voici Wagon Livre. Ce soir, c'est le 300e numéro de votre émission littéraire sur les ondes de votre radio locale. 300 émissions depuis novembre 2010, date de la première apparition de ce rendez-vous littéraire et culturel sur l'antenne de Radion. Alors au programme aujourd'hui, nous allons vous proposer en nouvelle diffusion des extraits d'entretiens avec des écrivains que nous avons eu le bonheur de rencontrer. Au programme ce soir, un voyage dans notre histoire de France grâce à Ève de Castro pour évoquer la construction du château de Versailles et les conditions d'hygiène à la fin du XVIIe siècle. Nous proposerons également de nous arrêter en 1917 avec Didier Deninx qui reviendra sur la pas très glorieuse affaire des mutinés de la Courtine, c'était dans la Creuse pendant la Grande Guerre. Nous réentendrons avec bonheur le comédien Michael Lonsdale évoquer son père alcoolique et s'enthousiasmer pour le poète Charles Péguy. Vous redécouvrirez les origines de la famille de Jean-Pierre Soisson et les débuts de celui que les journalistes ont souvent appelé le dernier des ducs de Bourgogne. Enfin, nous aurons l'occasion de revenir sur l'art des trouvailles inopinées. Ça s'appelle la sérendipité ou fortuitude en français. Sommes-nous doués de sérendipité? En tout cas, savons-nous provoquer le hasard? Réponse ce soir dans Wagon Livre grâce à Denis Grosdanovic. Mais pour ouvrir cette émission, nous donnons la parole à Noël Châtelet, essayiste et romancière que nous avions rencontré à Dijon en novembre 2011 pour un dialogue fictif avec le divin marquis. Alors, la prison a-t-elle été un stimulant intellectuel pour le marquis de Sade, philosophe des Lumières sombres, Noël Châtelet?
Elle a été à la fois un stimulant, une compensation, une vengeance. Et sans doute aussi une manière de continuer d'exister dans sa tête libertine. Je voudrais insister sur une phrase qu'il écrit à sa femme, René Pélagie, quand il est au donjon de Vincennes, et qui explique très 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 bien comment l'œuvre est née. Elle est d'une incroyable luminosité, cette phrase. Il écrit à sa femme « Vous avez cru faire merveille en me réduisant à une abstinence atroce sur le péché de chair. Eh bien, vous vous êtes trompé. Vous avez enflammé mon imagination. Et vous m'avez fait créer des fantômes qu'il faudra que je réalise. » Fantômes. Freud dirait aujourd'hui fantasme. Hein? Donc, l'œuvre de Sade est une œuvre fantasmatique. Et plus la prison va durer, et à la fin de sa vie, au moment où je le rencontre, parce que je décide de le rencontrer à Charenton.
Dans la vieillesse, finalement.
Ah oui, je le rencontre un an avant sa mort.
Le 2 décembre 1813.
Jour pour jour, un an avant sa mort. Il va mourir le 2 décembre 1814 à Charenton.
Vous ne le rencontrez pas au mieux de sa forme?
Non, pas du tout.
Il a 73 ans, il est corpulent, il est isolé, il n'a pas le moral, il est donc à l'hospice de Charenton.
Il est usé.
La Révolution l'a remis en prison et il est finalement prisonnier de l'empereur.
Il aura connu toutes les prisons, celle de l'Ancien Régime, celle de la République, celle de l'Empereur et celle de l'Empire, absolument. Et quand je vais le voir en prison, justement, il me semble que c'est le bon moment à la fin de cette vie où il n'attend plus rien des
il
hommes.
Il aurait pu choisir le suicide.
Il aurait pu, il y a songé plusieurs fois. Il y a songé plusieurs fois. Mais... Non, le fait qu'il soit resté... Moi, je pense que sa passion d'écrire a été la plus forte. Et qu'il a trouvé quand même là quelque chose qui, d'une certaine manière, l'a à la fois réconforté et lui a permis de continuer à vivre. Mais le moment où je vais le voir me permet, au fond, en le regardant dans les yeux, de lui demander... Là, je lui dis, vous n'avez plus rien à perdre. Expliquez-moi le sens d'une œuvre pareille. Qui décourage tout lecteur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et j'essaie, en trouvant ici et là des réponses et des phrases qui me semblent, comme celles que j'ai citées tout à l'heure, particulièrement éclairantes, de lui faire expliquer l'inexplicable. Parce qu'il reste fondamentalement énigmatique. Je ne prétends pas, à travers ce dialogue fictif, trouver la vérité de Sade, mais en tout cas, je m'en approche singulièrement et je m'en approche par un procédé de mise en scène qui peut-être ne lui aurait pas déplu non plus, puisque lui-même met en scène sa philosophie à travers ses personnages. Hein. Tous ces personnages résonnent. Hein. Ils ne sont pas seulement des ils ne sont pas seulement des barbares et des sanglants prédateurs, c'est tous ces héros. Ils sont aussi des libres penseurs et des philosophes. Tous ces personnages, philosophes. Et Sade lui-même, philosophe. Et il philosophe sur le mal avec l'idée que, contrairement à ce que pense Rousseau, qui croit que l'homme est bon et que c'est la civilisation
qui le corrompt et le rend mauvais.
Oui, l'homme est fondamentalement mauvais, que la nature dans laquelle il est plongé veut le mal, que Dieu, s'il y en a un, est un Dieu du mal, et c'est avec ce pessimisme absolu qu'il va construire un système que j'appelle un jour, dans un autre livre, le système de l'agression, où il va, au fond, aller dans l'ombre qui est en nous, dans le sombre qui est en nous, tenter de mettre un peu de lumière. Et c'est peut-être pour ça que je finis par l'appeler le philosophe des lumières sombres. Je pense qu'il nous rend service. Même à travers la violence de cette œuvre, il n'est pas inutile.
Quand il est provocateur, quand vous citez un des propos de Sade, je ne sais pas d'où il vient, je n'ai pas toujours regardé les sources que vous mentionnez bien, « L'or et le cul, voilà les dieux de ma patrie ». Mais à l'heure actuelle, ça me semble très tendance. Écoutez, franchement,
oui, mais
à la une de l'actualité, l'or et le cul,
oui.
Il y a quelques mois,
ça résonne.
Ça fait écho.
Oui, mais ce qui fait encore plus écho... Pardon, je vous ai interrompu.
Je vous en prie, Noël Châtelet.
Mais ce qui fait encore plus écho, c'est les témoignages qu'on lit des tortures dans les geôles syriennes aujourd'hui. Il y a eu un témoignage d'une écrivain qui est en exil en ce moment, en France, à Paris, dans un journal l'été dernier, où elle raconte comment ses bourreaux, dans la prison où elle était enfermée, l'ont torturée, elle, l'obligeant à assister à des séances de torture dans les geôles où on ouvrait les portes comme ça systématiquement devant elle. Et je me suis dit, c'est du Sade. Ce qu'elle décrit là, c'est du Sade.
Ou si c'est passé à Guantanamo ou les excès de l'armée américaine
oui,
en Irak.
L'homme, l'humain, est capable de cette vilainie-là. Elle est capable de la Shoah.
Mais Pol Pot, on peut chercher partout des horreurs, des abominations, justement, dans les cachots, sur les corps.
Sur les corps, dans la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, on a mille exemples de la cruauté de l'homme. Et c'est cette cruauté que Sade veut analyser et veut nous montrer, mais sans phare, mais évidemment avec quelque chose qui nous fait penser, sans tort, à une complaisance dont on se passerait, évidemment, mais qui fait partie de sa quête de vérité.
Donc, ce que vous mettez en valeur, c'est que Sade a été le... Vous parlez de lui comme d'un mineur, me semble-t-il, avec une frontale, qui est descendu justement dans, j'allais dire, les bas-fonds, la fameuse vilainie de l'âme humaine, finalement, et puis... Vous parlez également de lui comme d'un laborantin de l'âme, et c'est aussi une façon de nous intéresser aussi au mal qui est ancré en nous, quand bien même on essaie d'être vertueux.
Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, il ne croit même pas à la vertu. Il pense que la vertu est un faux semblant.
À l'instant, c'était Noël Châtelet pour son essai « Entretien avec le marquis de Sade », une émission diffusée le 25 janvier 2012 sur l'antenne de Radion. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée en notre compagnie. C'est Wagon Livre qui commémore ce soir sa 300e émission sur les ondes de votre radio locale préférée, Radion 90.5 dans Lyon. mais également aux quatre coins de la Bourgogne et de France sur le www.radion.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et je vous abandonne un petit instant pour une pause musicale.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
À 86 ans, il est aujourd'hui un des plus grands acteurs français de théâtre et de cinéma. Nous l'avions rencontré chez lui à Paris en décembre 2014. Il est né en 1931. Il s'appelle Michael Lonsdale. Il a travaillé sous la direction des plus grands, Duras, Beckett, Lozet, Wells, Truffaut, Haneau. Il a d'ailleurs reçu en 2010 le César du meilleur second rôle masculin pour son inoubliable interprétation du rôle de Frère Luc dans « Des hommes et des dieux », film de Xavier Beauvois. Alors devant notre micro, il était revenu sur une anthologie des plus belles pages chrétiennes et également sur « Entre ciel et terre », Peggy, qu'il avait fait paraître aux éditions du Cerf. Mais pour l'instant, Michael Lonsdale évoque son père alcoolique. Il vous donnera ensuite lecture du poème de Charles Peggy, intitulé « Les vaincus ». Michael Lonsdale.
Je ne l'estimais pas, je le méprisais. J'avais honte de lui, parce qu'il bon, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et il a triché, enfin bon. Et puis il buvait surtout. Et on ne le savait pas parce qu'il avait l'alcool complet. Plus il buvait, plus il devenait un peu vide. Et moi, le père, j'attendais qu'il me parle de choses. Enfin, il m'emmenait aux eaux de temps en temps. On jouait aux cartes et aux échecs, mais il ne me parlait pas. Puis je le voyais comme ça, il ne disait rien. Et bien, il cuvait. Il cuvait son alcool. Oui, mais le pauvre, il a été mis dans une école militaire à 14 ans en Angleterre. Il n'était pas fait pour être soldat. À 18 ans, on l'envoie en Sierra Leone, colonie anglaise à l'époque. Il a horreur de l'Afrique, des Noirs, de la chaleur, tout ça. Bon, il monte en grade, capitaine. On l'envoie en Inde. J'ai des photos de ça. Et à 30 ans, il quitte l'armée. On n'a jamais su pourquoi. Est-ce qu'il avait fait des bêtises? Dans la famille anglaise, c'était tabou. Je demandais aux oncles, aux tantes, pourquoi. We don't know, etc. Voilà, il s'est retrouvé dans le civil. Et puis, voilà. Puis là, il a rencontré maman, enfin sa future femme. Et souvent, il était absent, enfin comment dire. Et puis, oui, pendant la guerre, il a fait ses mauvaises choses au Maroc. J'avais honte de lui. Donc je l'ai méprisé. Et en fait, je lui en voulais, mais je ne savais pas qu'il ne s'occupe pas de moi. Quoi. Un père, ça doit s'occuper de son môme. Il doit le... J'ai rien appris par lui. Enfin, bon. Et bien parce qu'il était... Il cuvait son alcool, il n'a jamais été méchant, il n'a jamais fait de scandale. Mais l'alcool le paralysait, puis il était bien comme ça, il ne disait rien. Voilà. Alors je lui ai demandé pardon un jour, vraiment de tout mon cœur. J'ai dit, please forgive me, pardon, je t'ai méprisé, Et puis j'ai rêvé de lui le lendemain. Il venait vers moi en me tendant la main, comme ça.
On parle un peu de frère Luc.
Oui.
Vous en êtes d'accord? Il y a un texte formidable dans l'anthologie de vos plus belles pages chrétiennes. Il y a un texte de frère Luc qui a pour titre, oui, « Qui a une âme de pauvre », qui fait l'éloge de la oui, pauvreté.
Oui, oui.
Aujourd'hui, prêcher la pauvreté, c'est...
Non, mais laquelle? Parce que c'est la pauvreté financière ou la pauvreté intérieure?
Alors, c'était, si j'ai bien compris, c'était plutôt la pauvreté financière, c'est-à-dire vivre humblement, oui, dans l'humilité matérielle.
Oui, ou alors dans la rue. Voilà les pauvres, c'est là, ils sont là.
Vous détestiez les pauvres avant votre conversion. Oui. Vous disiez qu'à une époque, les pauvres, vous les envoyez balader avant d'être convertis. Alors que maintenant, vous avez un autre regard sur eux.
Oui, c'était pas très aimable, non. Non, ça, j'ai demandé pardon pour tout ça, parce qu'une fois ou deux, j'ai rembarré là, des gens qui m'ont kikiné. Je ne voulais pas leur donner un sou, ils m'emmerdaient. Je les ai envoyés balader. Non, ça, c'était pas bien. Et oui, il faut une attention comme ça aux petits, aux pauvres et aux gens, et être bon avec eux. C'est eux qui sont dans le malheur, c'est pas vous.
Et il y a cette phrase de frère Luc. L'orgueil d'être pauvre est la plus dangereuse des richesses. Qui a une âme de pauvre?
Oh, bah celui qui s'abandonne et qui n'a pas de volonté de quoi que ce soit de négatif et qui attend tout de son Seigneur. Et voilà. Et une fois qu'on est ancré, qu'on a jeté l'ancre, eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour justement essayer de devenir généreux, compatissant, aidant et aimant le prochain comme soi-même. Mais pour les gens qui ne s'aiment pas, c'est pas commode.
Est-ce qu'on parle d'un saint laïc qui est l'objet de votre dernier livre aux éditions du Cerf, Entre ciel et terre, Peggy?
Oui.
C'est formidable. Moi, j'avais lu Peggy il y a très longtemps. Vous faites une approche très didactique de ce poète né à Orléans, donc 1873. Il meurt En 1914, comme soldat, je crois qu'il est lieutenant, même,
il est officier. Oui, au début, à la première bataille de la Marne, prof, ça a été terminé.
Pouvez-vous revenir sur le choc poétique?
Ben, écoutez, c'est un grand poète, c'est ce phrasé comme ça, où il répète les mots souvent, et trois fois, et quatre fois, et cinq fois. C'est un visionnaire, Péguy, et puis c'est un amoureux de Dieu, absolument, complètement.
En revanche, il a même été anticlérical, étonnamment.
Oui, parce qu'il a dû rencontrer de mauvais prêtres. Il n'allait pas à la messe. Non, c'était pas un pratiquant, un modèle. Mais il avait quand même Dieu avec lui, quand même, en lui, totalement. Alors, c'est d'abord son théâtre qui m'a passionné, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Tout ça, et il arrive à faire vivre Jeanne d'Arc. Bien sûr, c'était une copine de son pays natal. Hein. Et puis alors, ce qu'il écrit sur la... Oh là là, comment ça s'appelle? Sur la confiance et sur l'espérance.
Sur la petite espérance, oui, la petite espérance. Hein, sœur de la charité et de la foi.
Ah oui, oui, c'est magnifique tout ça.
C'est dans le porche du mystère de la deuxième vertu.
Oui. Et il a écrit les cahiers de la quinzaine, là, tous les 15 jours. Il a écrit, mais sans arrêt, il y a des tonnes de choses de lui.
Et des textes très engagés sur les ouvriers,
oui,
sur le délabrement de la société, tout, qui fait écho à notre société actuelle, d'ailleurs.
Quand on lit ça, on se dit, ben oui, c'est comme aujourd'hui.
Nous sommes des vaincus. Vous voulez nous lire, Michael Lonsdale, ce texte, hein? Je vais vous trouver la page, s'il vous plaît, si je peux me permettre.
Attendez, je vais mettre mes vésicles. Le monde est contre nous. On ne peut plus savoir aujourd'hui pour combien d'années. Tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu, les mœurs et les lois, le sérieux et la sévérité, les principes et les idées, les réalités et le beau langage, la propreté, la probité de langage, la probité de pensée, la justice et l'harmonie, la justesse, une certaine tenue, l'intelligence et le bon français, la révolution et notre ancien socialisme, la vérité, le droit, la simple entente, le bon travail, un bel ouvrage, tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu recule de jour en jour devant une barbarie, devant une inculture croissante, devant l'envahissement de la corruption politique et sociale. Nous sommes des vaincus. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, nous n'avons fait que perdre du terrain. Aujourd'hui, dans la décroissance, dans la déchéance des mœurs politiques et privées, nous sommes littéralement des assiégés. Nous sommes dans une place en état de siège. Et tout le plat pays est abandonné. Toute la plaine est aux mains de l'ennemi. Tous les champs. Comme disent nos vieilles chroniques, l'ennemi s'est mis dans les champs.
Michael Lonsdale, au micro d'un numéro de Wagon Livre diffusé le 7 janvier 2015 sur l'antenne de Radion, un très beau souvenir. Nous poursuivons cette fois avec Ève de Castro, rencontrée à Dijon en avril 2013 pour son roman intitulé « Le roi des ombres » paru chez Robert Laffont, un roman qui explore l'aventure de la construction du château de Versailles. Et dans l'extrait que vous allez entendre d'ici quelques secondes, Ève de Castro revient sur les conditions de l'hygiène à la fin du XVIIe siècle. Ève de Castro.
Là aussi, c'est une époque qu'il ne faut pas regarder, je crois, vraiment avec nos critères, avec nos standards. À l'époque, l'eau n'était non seulement pas à la mode, mais elle était crainte. Parce que venait avec l'eau, enfin on croyait en tout cas que venait avec l'eau le risque de peste, que l'eau affaiblissant, amollissant, surtout l'eau chaude, les pores de la peau, rendait l'organisme propice à absorber tous les miasmes délétères qui étaient charriés par la laine des malades, par les bêtes, par la laine des mourants également. Et donc on avait très peur de l'eau. Donc on ne se baignait pas, on faisait sa toilette à ce qu'on appelait l'esprit de vin, c'est-à-dire le vinaigre. Et toute forme d'alcool parfumé. Et la toilette se bornait à la figure et aux mains. Et ce qui était considéré comme le signe de propreté et le signe de civilité, parce qu'être propre, c'est être courtois, c'est un signe de bienséance, c'était non pas se laver le corps, mais porter du linge propre. Donc on ne se savonnait pas, on ne se lavait même pas le corps, simplement on changeait, à la cour du moins, on changeait de linge 2 ou 3 fois par jour. homme comme femme. Et effectivement, ça, en travaillant sur les débuts du château, parce qu'il faut bien imaginer le château dans ses débuts, c'est-à-dire les années 1666, juste au moment où meurt Anne d'Autriche, et où commencent vraiment les travaux de Versailles, jusqu'en 1674, qui est la fin de mon histoire, ce sont les années de jeunesse de Louis XIV. Il faut imaginer une cour très jeune, très vivace, pleine d'instinct, pleine d'ardeur. Voilà. Il a entre 27 et 35 ans. Donc c'est encore un homme très jeune, vraiment dans la force de son âge, de ses désirs et de ses pulsions. Et il y a toute une cour de jeunes gens ou de gens jeunes derrière lui qui s'entassent dans un perpétuel chantier, dans le bruit des carriers, dans le bruit des scies à découper, à la fois les métaux et les pierres, dans une poussière invraisemblable, et il n'y a pas d'eau. Il y a deux fontaines pour 3000 courtisans au château de Versailles, et il y a eu qui ont travaillé dans le château et ses environs jusqu'à 30 000 ouvriers. Zéro fontaine pour les ouvriers. Les ouvriers devaient s'approvisionner à l'unique fontaine qui était alors sur la place du marché de Versailles. Par contre, pour les travailleurs qui travaillaient dans les jardins, il y avait des charrettes qui apportaient des bonbonnes d'eau qui servaient à boire aux ouvriers. Mais les familles ouvrières n'avaient pas d'eau. Donc se laver ça aurait été un luxe suprême. Déjà, boire à satiété était un luxe pour les petites gens. Et pour les courtisans, il fallait se débrouiller comme on pouvait. Et il y avait, le long de l'enceinte du château, vraiment le long de toutes les murailles, des baraquements qui, vous savez, comme sur le Ponte Vecchio à Florence, qui revendaient en cascade les restes de la table du roi, plus tout ce dont les gens pouvaient avoir besoin, boissons, nourriture, linge, bois, chandelles, tout ce dont on avait besoin pour vivre et qui était censé être fourni par le roi, mais seulement pour les gens qui avaient chambre au château. Les autres devaient se débrouiller.
Il y a des pages qui sont amusantes aujourd'hui en 2013 concernant effectivement où est-ce qu'on fait ses besoins à Versailles. Les toilettes n'existent pas. Alors vous écrivez, ces pages 320, derrière presque chaque bosquet on trouve une comtesse ou un Suisse accroupi. Sinon, dans les petits passages, les cours intérieures ou sous les escaliers, on glisse dans des flaques innommables. Les marches des degrés secondaires sont fleuries des troncs. On ne peut traverser certains passages sans poser un mouchoir sur son nez. Les mouches vertes pullulent, mais tout le monde en use ainsi.
Mais vous savez, pardon de vous interrompre, si vous lisez les mémoires de la princesse Palatine, vous serez effaré. Parce qu'elle raconte dans une langue, mais alors qui est beaucoup plus crue que la mienne, qu'on chie partout à Versailles et que on ne peut pas chier tranquillement parce que chaque fois qu'on veut aller derrière un buisson, il y a déjà un Suisse ou une comtesse en train de. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bourdalou ?
Non.
Bon, un bourdalou est une soucière. J'en ai une qui m'a été transmise de génération.
Que les dames utilisaient pendant les messes quand elles avaient envie d'uriner.
Exactement. C'est une petite saucière que leur suivante glissait sous leur jupe parce que le serment était trop lent. Et vous imaginez bien qu'il fallait les vider quelque part. Donc on les vidait derrière les piliers de la chapelle. Voilà. Versailles, c'était ça aussi.
Eh bien, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que nous sommes avec Eve
de
Castro.
Pardon si nous vous choquons beaucoup.
Nous parlons de son dernier roman, Le Roi des Ombres, disponible aux éditions Robert Laffont. Et ceci dit, ce sont des pages vraiment, j'allais dire, savoureuses, paradoxalement savoureuses, qui nous font sourire parce qu'il y a des aspects aussi particulièrement tragiques. Et puis, il y a les rituels. Alors, défile, là, on est vraiment dans l'histoire, défile. Colbert, qui est très attentif aux dépenses, hein, il y a Monsieur Levaux, Monsieur Lenôtre, il y a Lully, il y a l'agonie de la reine mère, Anne d'Autriche, la reine Marie-Thérèse que vous qualifiez. Il ne faut pas oublier que la reine Marie-Thérèse est la propre cousine de Louis XIV. C'est un mariage arrangé pour faire une alliance avec l'Espagne.
Hein.
Et de la reine Marie-Thérèse, vous dites qu'elle est blonde, grasse et bête.
Oui, elle l'était. Hélas, est follement amoureuse de son mari.
Et alors ?
Est très malheureuse.
Oui, et justement, dans votre roman, il y a des personnages féminins absolument formidables. Il y a bien sûr Ninon, qui naît en fait dans une famille propriétaire d'établissements de bains à Paris, qui elle-même veut devenir savante. Elle voudrait avoir accès au savoir, mais c'est une femme, et on le lui rappelle, la femme n'a pas le choix de sa carrière. Et d'ailleurs, il y a une citation dans votre roman, Eve de Castro, vous écrivez « La femme n'est donc pas seulement un mal manqué, elle est un mal puni pour l'éternité. »
Oui, vous savez, en fait, quand le propos du roi des ombres, c'est d'essayer de restituer, dans la mesure où c'est possible, la chair de ce siècle, avec ses odeurs, avec ses émois.
Mais pardonnez-moi, mais il y a un petit côté dans sa vérité. Suskin avec le parfum.
Ah, absolument,
parfois, j'ai pensé à Sébastien Grenouille, voyez-vous.
Je suis très sensible aux odeurs, comme tous les gens myopes, je crois, très myopes. Je dois compenser par l'odorat. Et nous parlions à l'instant de l'eau. Le personnage féminin de Nine Navienne, dont que vous évoquez là, je l'ai placé dans justement au cœur de ce qui fait l'intimité des corps, c'est-à-dire l'hygiène, le bain. Comme je vous l'ai dit, on avait à l'époque peur de l'eau, donc on ne se lavait pas chez soi. En plus, bien évidemment, il n'y avait pas l'eau courante. Par contre, il existait des établissements de bains, des bains publics, des étuves, où les grands, d'une part, et les petites gens, d'autre part, venaient, les grands pour prendre des bains de délassement ou des bains thérapeutiques, et les petites gens pour se faire barbifier. Parce qu'on était, à l'époque, barbier étuviste. Et le plus grand propriétaire de bains de Paris s'appelait François Lavienne. Son nom de jeune homme, c'était Quentin. Il y avait deux frères, François et Jean Quentin, qui étaient tous les deux barbiers. L'un s'est dirigé exclusivement, Jean, vers la barberie, et l'autre vers les bains. Et Louis XIV, qui était lui assez friand de l'eau, quand il était jeune, il se baignait beaucoup dans la Seine. Quand il était plus âgé, il allait prendre des bains justement chez le baigneur Lavienne et chercher chez lui ce qu'on appelait à l'époque des confortatifs, qui est l'équivalent exact de notre Viagra d'aujourd'hui, sauf que c'était à base de poudre cantharide, de mouche cantharide, de cornes, enfin de bois de cerf pilé, de cornes de sanglier, enfin de tas de choses improbables, mais censées réveiller les ardeurs viriles. Et ces confortatifs le rendaient apparemment plus capable dans l'alcôve de satisfaire ses maîtresses. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que Louis XIV a la réputation qui est arrivée jusqu'à nous d'un très grand consommateur de femmes, mais il semblerait qu'au déduit, comme on disait à l'époque, il n'ait pas été un amant si fougueux et si capable, parce que déjà très jeune, enfin à partir de 25-27 ans, il allait chez le baigneur Lavienne chercher des confortatifs et s'y délasser en plaisante compagnie. Et quand il était avec Madame de Montespan, qui avait un appétit d'ogre dans l'alcôve, il avait grand besoin de se prémunir contre ses faiblesses, manifestement. Et ça, c'est une image de Louis XIV qu'on n'a pas. De même qu'on n'a pas l'image du Louis XIV souffrant. Louis XIV ayant eu à cœur de transmettre à la postérité l'image d'un dieu dans un corps d'homme, il s'est attaché toute sa vie à nier son humanité et à nier la part souffrante de lui. Donc, qu'il ait perdu ses cheveux très jeunes, ses dents très jeunes, qu'il ait souffert du ténia toute sa vie, qu'il ait eu des migraines, des insomnies, des vertiges.
Voilà. Joues, il transpire d'abondance pendant son sommeil et ses mains restent moites. Effectivement, vous cassez le mythe. On est loin des portraits officiels de Hyacinthe Rigaud.
Absolument. Mais il y a eu une remarquable exposition à Versailles l'année dernière sur Louis XIV, le roi et l'homme, où on voit bien la distance entre l'homme et la construction de l'image, et comment ce qui nous est arrivé, c'est l'image voulue. Louis XIV, c'est une formidable, enfin le grand siècle, c'est une formidable entreprise de communication avant la lettre. C'est un génial, il avait des conseillers en communication géniaux, et il était lui-même, à cet égard, génial.
Un entretien diffusé en juin 2012 sur Radion, c'était la romancière Ève de Castro pour Le Roi des Ombres, paru chez Robert Laffont. Place à la musique tout de suite, et nous nous retrouvons bien sûr juste après pour poursuivre ce 300e numéro de votre émission littéraire. C'est effectivement Wagon Livre, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion.
Is nothing new. too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say it goes slow, I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Séquence icono-bourguignonne avec un homme né à Auxerre et qui, après 44 ans de mandat, y réside toujours. Il a aujourd'hui 83 ans, je veux parler de Jean-Pierre Soisson. Jean-Pierre Soisson est né à Auxerre, effectivement, en 1934, énarque, sous-lieutenant en Algérie, disciple d'Edgar Faure, dont il fut le conseiller. Il a été élu député de Lyon en 1968, puis maire d'Auxerre en 1971. Jean-Pierre Soisson fut un des lieutenants de Valéry Giscard d'Estaing lors de l'élection de celui-ci en 1974, avant de devenir, 14 ans plus tard, un des ministres d'ouverture sous le second septennat de François Mitterrand. Vous savez qu'il a été élu en 1992 à gauche et en 1998 à droite, à la tête de la région Bourgogne, avec chaque fois les voix du Front National, ce qui lui vaudra d'essuyer de virulentes critiques. Alors, sans plus tarder, dans l'extrait que vous allez entendre, Jean-Pierre Soisson revient sur les origines de la famille Soisson qu'il faut aller chercher en pays avalonnais. Jean-Pierre Soisson.
La famille Soisson vient de Savigny en terre pleine. Il y a eu un Geoffroy Soisson qui a servi les ducs de Bourgogne au XIVe siècle. J'ai eu un arrière-arrière-grand-père qui a été notaire à Guillon et un grand-oncle qui a été sous-préfet de Tonnerre et maire d'Avallon. Et donc le premier Soisson à occuper une fonction de maire dans ce département, ce n'est pas moi. C'est un de mes oncles, ce n'était pas Auxerre, ce fut Avallon.
Alors,
Votre père, Jacques Soissons, lui siégeait déjà dans ce qui était l'ancêtre du conseil régional, c'est le CODER. Il siégeait aux côtés de François Mitterrand, dont il était un camarade.
Oui, la CODER était l'ancêtre du conseil régional, représentant les forces économiques et sociales. François Mitterrand représentait le département de la Nièvre et mon père représentait les chambres de commerce. Et effectivement, ils siégeaient côte à côte. Quand le président n'était pas là, il donnait son pouvoir à mon père et réciproquement et inversement. Et ils avaient l'habitude de déjeuner ensemble ensuite. Et pour la petite histoire, jamais le président François Mitterrand n'a pris à Auxerre un repas en dehors de chez mes parents.
Vous ouvrez cette chronique d'une vie politique par vos souvenirs de combattants en Algérie. Vous y étiez sous-lieutenant, donc de 1957 à 1962, jusqu'à donc l'indépendance.
Non, j'ai été sous-lieutenant. J'ai fait 30 mois. J'ai commandé la Arca du 3e régiment de chasseurs d'Afrique, et qui était commandé par le colonel Argout. Et j'ai passé, 30 mois en Algérie, en sortant de l'école de cavalerie de Saumur. J'étais cavalier et sous-lieutenant, et ça a été un moment assez formidable. Je raconte des événements difficiles, puisque l'Arca que je commandais, tout à fait au début, s'est rebellée contre moi. Donc j'ai 22 ans, j'arrive en Algérie, perdu dans le bled, et les hommes qu'on me charge de conduire au combat vont une nuit tirer contre les deux ou trois Européens que nous étions. C'était un des moments difficiles de ma vie, qui est à l'entrée de ce livre.
Alors justement, vous découvrez en Algérie, vous l'écrivez, la violence, la souffrance et la mort, puisqu'il y a des amis, il y a des camarades qui tombent tout près de vous. Et je vous cite Jean-Pierre Soissons: « J'ai alors mesuré à quel point la guerre d'Algérie a compté dans ma vie. Elle est présente en moi comme une blessure secrète. Elle a constitué l'aventure de mes 20 ans et pour toujours, elle m'a entraîné hors des sentiers battus » qu'on retrouve dans le titre de cette chronique de votre vie politique. Alors, blessure secrète et hors des sentiers battus, deux termes que je vous demande de commenter, de développer un peu, s'il vous plaît.
Tous les anciens d'Algérie ne veulent pas évoquer leur guerre ou en parlent peu. Et parce que quand nous sommes rentrés, les Français avaient envie d'autre chose et d'évoquer d'autres souvenirs. Et même quand nous sommes réunis entre nous, dans les réunions de l'AFTACA notamment, on parle peu de nos souvenirs d'Algérie. Mais pour chacun d'entre nous, c'est sans doute parce que c'était l'époque de nos 20 ans. Pour chacun d'entre nous, ça a été l'événement qui a sans doute le plus marqué leur jeunesse et qui constitue effectivement une blessure secrète qui n'évoque pas, mais qui est bien réelle. Et derrière Argout, sur les sentiers du bled, à la tête d'une Arca, puis ensuite avec Valéry Giscard d'Estaing, puis François Mitterrand, ma vie a été un peu hors des sentiers battus. Certains ont pu critiquer tel ou tel épisode, mais c'est la mienne et ce sont des choix que j'ai effectués et dont je suis fier.
À l'instant, c'était Jean-Pierre Soissons dans un numéro de Wagon Livre diffusé en février 2015. Jean-Pierre Soissons qui fut député de Lyon de 1968 à 2012, maire d'Auxerre pendant près de 30 ans, deux fois président du conseil régional de Bourgogne. Jean-Pierre Soissons a aussi été ministre pendant 12 ans et effectivement, on l'avait interviewé à l'occasion de la parution chez De Fallois de ses souvenirs politiques rassemblés sous le titre « Hors des sentiers battus » qui est le témoignage d'un acteur majeur de la vie politique française de 1962 à 2012. D'ailleurs, en ce début d'année, toujours chez De Fallois, Jean-Pierre Soissons a fait paraître « Les polars d'Edgar ».
Nouvel intermède musical, et nous nous retrouverons bien sûr juste après avec Denis Grosdanovic. L'entretien avec Denis Grosdanovic met en valeur des concepts tels que la sérendipité, c'est-à-dire la découverte de choses heureuses par hasard. Alors certains cas de sérendipité sont restés célèbres, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, voire l'invention de la tarte tatin en 1898 en Sologne. Sachez, pour votre culture personnelle, que l'antonyme de la sérendipité est la zamblanité, c'est-à-dire le fait d'être au mauvais endroit et au mauvais moment. Et vous, auditrices et auditeurs, vous êtes en ce moment sur Radion et forcément au bon endroit et sur la bonne fréquence. Alors, pour vous récompenser, eh bien, voici une petite pause musicale que nous vous offrons. C'est Wagon Livre, 300e numéro, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ce mercredi 14 juin 2017, c'est le 300e numéro de Wagon Livre, un rendez-vous anniversaire au cours duquel nous rediffusons quelques extraits d'entretien. Place tout de suite à l'art des trouvailles inopinées, cela s'appelle en français la fortuitude, mais également la sérendipité. Explication devant notre micro par Denis Grosdanovic, rencontré à Dijon en mai 2013.
C'est compliqué, mais c'est comme je l'explique dans le livre en parlant de la sérendipité, qui est l'art de faire des trouvailles heureuses tout à fait par hasard et en cherchant toute autre chose.
Alors je rappelle le mot, la sérendipité.
La sérendipité. Hein,
équivalent de fortuitude
voilà,
en français.
Voilà, ouais, c'est une chose qui est beaucoup arrivée dans les sciences. Hein, la plupart des grandes découvertes scientifiques se sont faites par hasard.
La chute d'une pomme inspire Newton une théorie.
Christophe Colomb découvre l'Amérique en croyant découvrir les Indes occidentales. Mais alors, il y a la découverte de la pénicilline par Fleming, la découverte de la lampe à incandescence par Edison, la découverte de la photographie par Nicéphore Niépce.
Et même si on veut être gourmand,
oui.
La tarte tatin.
La tarte tatin, oui.
Ah, ça, était... vous pourriez expliquer, c'est
bien. À la mode Beuvron, les sœurs tatin tiennent une auberge, et puis une des deux sœurs, je ne sais plus de laquelle, une des deux, en apportant une tarte vers la salle à manger, la renverse dans le couloir sombre, et personne ne la voit, elle la ramasse telle qu'elle, elle la porte au four pour maquiller le tout, et puis elle la serre, et tout le monde trouve ça prodigieux. Le fait qu'elle était renversée de l'autre côté fait que d'un seul coup, ça fait une recette prodigieuse. Donc c'est un cas de sérendipité. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, le chapitre s'appelle « Sommes-nous doués de sérendipité ?» Et ma réponse est que nous autres occidentaux, non, pas du tout, nous ne le sommes pas, très difficilement. Et la sérendipité, le savoir provoquer le hasard, ça demande une certaine préparation mentale. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner énormément à chercher les choses, mais une fois qu'on s'est entraîné beaucoup, d'un seul coup, il faut tout oublier. Il faut se laisser aller à l'instinct qui s'est créé en nous avec cette préparation. Et non plus vouloir trouver d'une façon trop déterminée. Et il me semble que c'est ça qui est terrible chez nous autres occidentaux actuellement, c'est que notre façon de chercher les choses nous fait découvrir que des choses qui sont en général malheureuses. Je voudrais prendre un exemple très simple, c'est que, moi, point de vue médical, je m'intéresse à ça. Il y a une épidémie de cancer actuellement. Il me semble que la façon qu'on a de chercher pour essayer de trouver une solution n'est pas du tout la bonne.
Ah bon ?
Oui, parce que je ne pense pas que c'est dans les cellules qu'on trouvera la réponse. C'est plutôt, et là, ça, c'est un autre aspect du livre, quand je parle de ce que j'appelle la pensée synthétique chinoise ou la pensée simultanée, les Chinois, quand ils ont affaire à un événement, ne se demandent jamais pourquoi cet événement a eu lieu, comment exactement il a eu lieu, quel est l'enchaînement de cause à effet qui l'a amené. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé en même temps. Et ils ont créé un système de référence très complet qui culmine dans ce livre savant qui s'appelle le Yi Qing. Il s'agit de déterminer à travers, disons, des sortes de jeux de hasard, ce qui serait trop compliqué à expliquer maintenant, qui détermine certaines lignes de force du destin. Eh bien, ça les amène à... C'est difficile à expliquer le Yi Qing. Ça les amène à déterminer ce qui a des chances de se produire dans l'avenir selon certains éléments qui ont été rassemblés en même temps. Et entre autres, j'en reviens au cancer, le fait de s'apercevoir qu'au fond c'est une prolifération anarchique de cellules devrait nous faire penser que nos villes aussi maintenant, notre démographie galopante est une prolifération anarchique d'êtres et de cellules humaines. Et au fond, se poser la question si, d'une certaine manière, le cancer ne serait pas une régulation planétaire. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est peut-être pas tellement dans les cellules qu'il faudrait chercher, mais plutôt dans le fait de changer nos modes de vie. Et qu'à ce moment-là, ça résorberait le cancer. Voilà une... Mais bon, ça n'est qu'une hypothèse. Et je veux dire, il y aurait plein de manières de chercher des choses différentes qui seraient possibles si on était capable d'adopter un autre mode d'appréhension du monde.
C'était un extrait de Wagon Livre diffusé en juin 2013 avec Denis Grosdanovitch pour La puissance discrète du hasard, disponible aux éditions de Noël. D'ailleurs, chacun des écrivains que vous avez pu entendre ce soir a été l'invité de votre émission littéraire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité leurs interventions sur le site d'archives de l'émission via internet www.yannickpetit.fr. Place à l'histoire avec Didier Deninx. Dans son roman Le Der des Der, qui est disponible en collection Folio Policier, ce roman qui est dédié à son grand-père anarchiste et déserteur en 1917, Didier Deninx y dénonce la pratique du fusillé pour l'exemple. Il revient sur une page peu glorieuse de l'armée française, notamment l'épisode des mutinés russes de la Courtine, c'était dans la Creuse, à l'automne 1917. Didier Denax.
Alors la Courtine, c'est sur le plateau des Mille Vaches. Hein, c'est, et le camp de la Courtine était un camp d'entraînement de l'armée française qui se situait dans la région de Limoges, grossièrement, entre Felletin et Aubusson, la capitale de la tapisserie. Et ce qui s'est produit, c'est que, comme en 1917, quand arrivent les soldats américains, arrivent aussi de l'autre côté, et c'est en cela que la guerre de 14 est extrêmement moderne. Il y a les États-Unis qui vont devenir la principale puissance, et la deuxième principale puissance mondiale qui va disputer le leadership aux États-Unis, c'est la Russie qui va devenir soviétique, 1917 justement. Et en 1917, à Marseille, débarquent des dizaines de milliers de soldats russes suite à des accords entre le gouvernement français et la Russie tsariste. Et le tsar se débarrasse, pour une part, les troupes sont formées de paysans, et pour une part, d'ouvriers remuants des grandes capitales industrielles de la Russie. Et le tsar russe s'est débarrassé de gens, puisqu'il y a les révolutions qui commencent véritablement à chavirer son empire. Et ces soldats vont être amenés sur le chemin des Dames. Et ils vont y arriver en avril 1917, et fin avril 1917, il y a les grandes offensives de Nivelles. Et à ce moment-là, il y a des massacres énormes, c'est-à-dire les soldats sont envoyés véritablement à la mort. Il y a l'utilisation des gaz asphyxiants. Et une grande partie des soldats russes qui sont engagés sur le chemin des Dames se révoltent et se mettent en grève symboliquement le 1er mai 1917. Et ils mettent les fusils en l'air, ils mettent des drapeaux rouges sur les tranchées. Et il va y avoir une énorme difficulté à remettre ces troupes en ordre et à les envoyer se rebattre sur le front, à tel point qu'à un moment, les états-majors décident de prélever ces troupes qui ne sont plus du tout sous contrôle et de les envoyer à l'arrière. Et on les envoie au camp de la Courtine afin d'essayer de les reprendre en main. Quand ils arrivent en Auvergne, au printemps 1917, ces troupes se constituent en soviets. Il y a eu la révolution de février, il y a eu toutes ces révolutions. On arrive pratiquement à la révolution d'octobre. Là, elle est véritablement en gestation. Il y a des informations qui viennent. Et donc, il y a une sorte d'épisode de la révolution bolchevique qui se produit dans le camp de la Courtine, où les soldats élisent des soviets. Il y a un chef soviet qui s'appelle Baltaïs. Et le gouvernement français se retrouve avec ce problème et décide de faire droit à une directive du gouvernement russe, de faire venir une compagnie d'artillerie russe qui est basée vers Orange. Et donc cette colonne russe va traverser la France et va se mettre sur les collines qui dominent le camp de la Courtine et va bombarder, avec l'accord des autorités françaises, va bombarder le camp de la Courtine. Il va y avoir de très nombreux morts et une reddition des mutins qui vont être jugés, qui vont être emmenés à Bordeaux et qui vont être jugés. Ensuite, on va essayer de remettre ces soldats en ordre de bataille. Ils vont refuser. Ils vont être versés dans des compagnies pour aller s'occuper des champs, pour aller s'occuper des forêts. Et puis d'autres vont être envoyés vers le Maroc pour aller assainir des marais afin de faire passer des rails de chemin de fer. D'autres vont être envoyés sur l'île d'Aix. Aujourd'hui encore, il y a encore des traces de tombes russes avec des croix en bois où il y a ces noms. Donc il y a des vestiges un petit peu partout, comme ça, de cette épopée absolument incroyable des révoltés du chemin des Dames et de la Courtine. Parmi eux, dans mes recherches, j'ai retrouvé un nom. C'était quelqu'un qui est devenu un maréchal de Staline pendant la guerre de 39-45, qui s'appelait Malinowski, qui était un des soldats du rang qui était à la Courtine et qui l'a écrit dans deux, trois bouquins de mémoire.
C'était Didier Deninx, rencontré au Salon du Livre de Migennes en octobre 2011. Rappelons que le prix de littérature populaire Paul Féval lui a été attribué en 1994 pour l'ensemble de son œuvre. Ce 300e numéro de Wagon Livre touche à sa fin. Merci d'avoir été ce soir des nôtres pour cet anniversaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21 juin, toujours à 21h sur Radiole, pour un entretien avec le poète et artiste peintre Alain Michaud, qui évoquera son dernier recueil de poèmes en prose, Kintsugi, et il nous expliquera en quoi consiste ce merveilleux artisanat japonais, ainsi que ses prolongations métaphoriques dans l'existence humaine. Alain Michaud expose actuellement ses œuvres picturales, essentiellement des encres de très grande taille sur papier photographique, et cette exposition est visible jusqu'au 2 juillet prochain aux Écuries Saint-Hugues à Cluny, en Saône-et-Loire, bien évidemment. Un rendez-vous, en tout cas à ne pas manquer, c'est mercredi prochain à 21h sur Radione, bien évidemment. En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci de votre fidélité, au revoir et à mercredi prochain.